Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Parole aux auditeurs. Financé par la Banque africaine de développement, le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et des jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, Pabia Cobalt, est une initiative présidentielle pour l'éradication du travail des enfants dans les sites miniers artisanaux du cobalt et l'instauration d'une chaîne d'approvisionnement responsable du minerai cobalt en RDC. Ce projet vise en effet la reconversion dans l'agro-business de jeunes et des ménages qui travaillent dans les sites miniers du cobalt dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, mais aussi la réinsertion scolaire des enfants impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. De la province du Lualaba, par exemple, ce projet prévoit d'assurer la reconversion économique vers l'agro-business d'au moins 6250 ménages ainsi que des jeunes travaillant dans les sites miniers artisanaux. Par ailleurs, pour les deux provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, au moins 13587 enfants sur l'effectif global des enfants identifiés dans les mines artisanales du cobalt ont bénéficié d'une réinsertion scolaire au cours des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Que pensez-vous de ce projet d'éradication du travail des enfants dans les sites miniers du cobalt et quel bilan dressé de son état d'exécution dans les deux provinces? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parle aux auditeurs et vous pouvez également écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir en direct en composant les 99 706 80 79. Pierre Diassinois est à la mise en nom de ce magazine. Julie Fezabongonda sur la réalisation et la coordination. Jonathan Fonani et Nelson Nyombe s'occupent de la diffusion en direct sur nos plateformes digitales. À toutes et à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine des champs citoyens, Parole aux auditeurs. Et aujourd'hui nous allons parler de ce programme d'appui au bien-être alternatif des enfants et des jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, qui est une initiative présidentielle pour l'éradication des enfants dans les sites miniers artisanaux du cobalt et l'instauration d'une chaîne d'approvisionnement responsable du minerai cobalt en RDC. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir dans ces studios Maître Alice Mirimokabeti. Bonjour Maître.
Bonjour Monsieur Marcel.
Vous êtes administrateur, directeur général du Fonds National de Promotion des Services Sociaux FNPSS en sigle, et également coordonnatrice du projet d'appui au bien-être et alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, Pabia Cobalt. Alors, ce projet a été lancé, à moins que je me trompe, il y a 5 ans déjà. Alors, si aujourd'hui il faut faire un état de lieu sur l'état d'exécution de ce projet, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Merci beaucoup. Merci encore pour cette opportunité que la radio Capi me donne pour parler du Pabia Cobalt. Les résultats sont énormes. Nous avons pu faire d'abord l'identification des bénéficiaires, et les bénéficiaires principaux ce sont les enfants, parce que le projet a comme objectif ultime c'est d'avoir 0 enfant dans les sites miniers artisanaux de cobalt. Et le projet aussi veut instaurer une chaîne d'approvisionnement responsable du minerai de cobalt en RDC. Vous savez que en 2019, quand le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accédé au pouvoir pour son premier mandat, il s'est retrouvé face à un problème, c'est que le cobalt allait être blacklisté au niveau mondial, allait le bannir. Vous savez que le bannissement des autres minéraux comme le coltan, tout ça nous a amené la guerre que nous avons à l'Est jusqu'aujourd'hui, qui devient comme une épine dans notre dos. Et il ne fallait pas qu'il y ait encore un autre minéraux aussi stratégique qui soit banni. C'est comme ça que le chef de l'État, dès son entrée en fonction en janvier 2019, il avait directement sensibilisé et mobilisé la Banque africaine de développement pour qu'il puisse l'aider à venir obtenir ces deux résultats importants, donc sortir les enfants de toute la chaîne d'approvisionnement du cobalt et instaurer une chaîne d'approvisionnement responsable de ce minerai. Et les deux provinces étaient visées et sont les bénéficiaires principaux, c'est le Haut-Katanga et le Lualaba. Je suis en train aussi de remercier les deux gouverneurs, Son Excellence Madame Gouverneur Fifi Masuka et le gouverneur Kabula pour le Haut-Katanga, parce qu'ils se sont aussi mis directement à l'œuvre. Ils nous ont donné toutes les facilités nécessaires. La première facilitation, c'était de faire l'identification de ces enfants. Il fallait nous déployer dans les sites miniers. Je suis en train de remercier aussi le ministère des Mines qui nous a facilité la tâche, parce que le SAMAP, qui est le service spécialisé au ministère des Mines qui s'occupe des sites miniers artisanaux, avait collaboré avec beaucoup d'abnégation. Et nous nous sommes tous déployés sur le terrain. Moi-même, pour ceux qui voient les images, j'étais parti là-bas. L'identification avait fait 2 mois. C'était au mois de février 2022.
Donc, vous aviez en train de sensibiliser également les familles
exact,
et les ménages.
J'ai eu le temps de danser avec les enfants dans les sites. J'ai eu le temps de parler aux mamans, aux papas. Et j'ai vu beaucoup de phénomènes sur le plan des questions de genre, des questions des promotions des femmes. J'ai vu les femmes, comment elles tiennent leur restaurant dans les sites artisanaux. Mais c'était la période de 2022, en oui. février. Et à ce temps-là, nous avons réussi à sortir 16 845 enfants.
Tous, et c'est sur tous combien, ces enfants. Sur combien qui étaient identifiés?
Nous avons identifié 16 845 enfants.
Et vous avez pu sortir tous ces enfants ou
comment? Nous les avons sortis, tous ces enfants.
Ah bon?
Et je dois préciser que quand je me suis retrouvée dans les sites miniers à ce temps-là, j'ai constaté que tous les enfants qui sont dans les sites ne travaillent pas nécessairement. Et on a commencé à parler de la présence des enfants dans les sites miniers artisanaux. Et donc, j'ai vu des bébés, j'ai vu de petites filles et des filles de moins de 15 ans qui avaient des bébés, qui ont eu à être engrossées. J'ai vu beaucoup de phénomènes de violence et de viols sur les femmes, les jeunes, les petites filles et tout. Et de tous ces phénomènes, nous avons pris la résolution de sortir ces enfants des sites miniers. Sortir les enfants des sites miniers signifie qu'il fallait atteindre leurs parents ou leurs tuteurs, pour ceux qui n'avaient plus d'enfants de parents. Et nous avons sensibilisé aussi les parents. Ce qui fait que pour nos statistiques actuelles qu'on a eues à ce temps-là, nous avons pu avoir une base de données de 10 552 parents. Et il y a 8 226 jeunes créateurs artisanaux qui ont accepté de quitter les grottes et de rejoindre l'agro-business, parce que c'est l'agro-business qui a été choisi comme domaine de reconversion. Et donc ça, c'est par rapport aux statistiques. Et aujourd'hui, je viens de faire la ronde là-bas avec, j'ai accompagné la Commission nationale des droits de l'homme qui est encore en train de faire une enquête sur la question. En tout cas, les sites miniers que nous avions visité à son temps n'ont plus des enfants.
Bon, ça, c'était très
et
bien
même les femmes n'y sont plus. Et d'ailleurs, il y a un phénomène là-bas superstitieux. Il paraît que la femme ne peut pas entrer dans la mine. Moi, déjà, ils ont même refusé que j'entre. Bon, exceptionnellement, on m'a montré de loin. Il paraît que quand la femme entre, elle emporte tous les minerais.
Ah bon? Quelle croyance! Mais alors, puisque vous parlez de la reconversion en agro-business, est-ce que ça se passe comment? Ça se passe bien?
Voilà. Donc, j'aimerais dire.
Oui.
En ce qui concerne le volet zéro enfant dans les sites miniers artisanaux de cobalt, la première action, c'était donc l'identification de ces enfants. Nous avons fait. Nous avons eu à signer un contrat avec un groupement, le groupement anglican et COPI, pour nous aider à assurer la réinsertion. Et la réinsertion sociale des enfants a porté sur la réinsertion scolaire. Il y a les questions de santé, les questions psychologiques. Il y a des maisons d'écoute qui ont été mises dans les écoles. Et il y a aussi leur état civil. Donc, chaque enfant identifié, chaque enfant qui a été mis dans le circuit de réinsertion a droit à avoir son acte de naissance. Et les tribunaux pour enfants nous ont beaucoup aidés, les tribunaux de paix pour là où il n'y a pas les tribunaux pour enfants. Et les avocats, nous avons nos avocats au niveau du FNPSS qui ont travaillé d'arrache-pied et nous avons obtenu les jugements supplétifs et les actes de naissance. Donc, ces enfants ont restauré leur vie et leur dignité. Et pour le moment, nous avons réussi à laisser dans le circuit de réinsertion scolaire 13 587 enfants. Et donc, vous-même, vous avez dit, c'est depuis 2022-2023-2024, il y a parmi nos enfants qui sont maintenant au secondaire. Donc, pour moi, c'est une grande joie. Et d'ailleurs, je félicite ces enfants parce que je n'ai pas vraiment des échecs.
Oh, ça,
ce sont des enfants très assidus. Mais c'est là où vous voyez que tout enfant qui est mis dans les bonnes conditions donne le meilleur de lui-même.
Est-ce qu'il n'y a pas eu de cas de désertion ou bien tous les enfants, vous avez
tellement...
Il y
a eu des cas de désertion. C'est pourquoi, je vous dis qu'on a identifié 16 845 enfants, mais on a pu maintenir dans les circuits de réinsertion 13 587. Du moins, du coup, la différence là, c'est des cas de perdition. On ne les a pas retrouvés.
Oui.
La plupart parce que les sites ont disparu, parce que les sites miniers artisanaux disparaissent. Hein, ça dépend. Dès qu'il y a un permis d'exploitation là-bas industriel, les sites artisanaux disparaissent. Et il y a beaucoup d'enfants qu'on a perdus comme ça, mais ils sont pas nombreux parce que l'effectif qui est resté dans les circuits représente 91% de ces enfants.
Alors, s'il ne faut pas des enfants, c'est déjà très, très important de savoir qu'à l'heure actuelle, c'est zéro enfant dans ces sites miniers. Mais quelles sont les dispositions prises pour éviter qu'avec les temps, ces familles ou ces enfants retournent encore sur le site minier?
Voilà, nous avons notre plan de communication et de sensibilisation qui a été d'ailleurs validé par la Banque africaine de développement aussi. Et ce plan nous permet d'impliquer tout le monde. Toutes les parties prenantes, les relais communautaires, les chefs, les responsables des sites, les services du ministère des Mines, les services du ministère des Affaires sociales, le Fonds national de promotion des services sociaux, les ONG, les autorités gouvernementales du gouvernement provincial, notre ministre national des Affaires sociales. Toutes les parties prenantes sont impliquées d'un seul homme pour dire plus question qu'il y ait des enfants dans les mines. Alors, nous sommes en train maintenant de mettre en place un système, un dispositif d'alerte et de surveillance de ces enfants. Ce dispositif va être informatisé. Bientôt, je vais lancer le marché pour l'acquisition de matériel parce qu'au sein du FNPSS, nous avons l'Observatoire de la vulnérabilité sociale. Et au sein de cet observatoire, nous allons maintenant expérimenter cela dans les deux provinces pour que nous puissions ensemble surveiller la présence des enfants et alerter dès lors qu'on le voit. Et nous avons aussi fait participer les responsables des écoles, parce que je dois aussi les remercier, les responsables des écoles qui ont accepté nos enfants. Il y en a plus de 150, hein, et que ce soit dans le Haut-Katanga comme dans le Lualaba. La plupart des écoles sont des écoles privées, parce que dans beaucoup d'endroits où se trouvent ces enfants, il n'y a pas encore des écoles publiques, parce que c'est souvent tout autour des sites. Mais le projet est en train de construire 32 infrastructures. Nous sommes en train de construire 32 infrastructures dans les deux provinces. Ce sont des écoles, des centres de santé et des centres de rattrapage scolaire. Parce que l'amélioration des conditions des études de ces enfants fait partie des objectifs du PAB Acobat. Alors, le volet maintenant reconversion économique. Qu'est-ce qui se passe? Quand ce projet a été évalué en 2019, avant son lancement,
oui,
nous avons constater que la plus grande cause de la présence des enfants dans les sites miniers, c'est la pauvreté de leurs parents, la pauvreté des ménages. La plupart d'enfants suivent leurs parents parce qu'ils font des petites activités peut-être de routine, mais il fallait trouver des solutions durables pour les parents. Et c'est ça l'innovation de ce projet, parce que aller enregistrer les enfants, identifier les enfants, beaucoup de structures l'ont fait. Il y a même beaucoup d'agents des Nations Unies qui l'ont fait. Il y a des ONG qui l'ont fait. Mais l'innovation du PABEA, c'est que nous voulons aller à la racine du problème. Résoudre les questions de pauvreté des ménages. Voilà pourquoi nous avons construit le centre de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness, CPJAP, qui est un modèle qui va faire son histoire non seulement en Afrique, mais même dans le monde.
Où des jeunes suivent de formation l'entrepreneuriat.
Les jeunes, nous allons dans le CPJAP, et oui, là, je dois vous dire que les CPJAP sont déjà finis. Nous avons terminé la construction de ces deux CPJAP. Pour le Haut-Katanga, nous le construisons au village Mutumpeke, parce que c'est des modèles qu'on veut amener dans nos villages. Et pour le Lualaba, c'est au village Kamoa. Pour ceux qui ont l'occasion d'arriver à ces provinces, je les invite toujours à visiter ces chefs-d'œuvre. Et là, d'ailleurs, je jette beaucoup de fleurs auprès du chef de l'État, parce que c'est lui qui a tenu à ce que ce modèle soit implémenté. Et au moment où je vous parle, nous sommes en train de vouloir les répandre dans les autres provinces. Il y a déjà 14 provinces qui sont ciblées. Les gouverneurs de ces provinces sont déjà saisis et les plans d'opération de marché sont déjà sur le site web de l'autorité de régulation de marché. Pour ceux qui veulent le savoir, j'invite tous les architectes, tous ceux qui ont des sociétés de construction de postuler parce que
vous donnez la chance aux Congolais de profiter de l'occasion.
Exact, parce que nous, notre objectif, c'est de répondre à ce que le chef de l'État a dit, de créer des millionnaires congolais.
Voilà, madame, on revient à vous.
Et donc, quand les parents seront capables maintenant d'être des vrais entrepreneurs formés dans le CPJAB, et le CPJAB, nous allons faire tous les quatre aspects d'un centre de promotion. La formation, la production, les deux gouverneurs, je vous ai dit, sont très impliqués. Ils nous ont donné chacun 2000 hectares pour que nous puissions nous-mêmes expérimenter les cultures locales. Et nous allons faire la transformation. J'ai installé des usines dans chaque CPJAP pour faire notre bunga là-bas, pour faire les jus là-bas, pour que nous puissions manger congolais. Et ce sont les Congolais qui vont être dans ces circuits-là. Et nous allons faire la commercialisation, évidemment, à travers les coopératives de ses parents. Donc, eux vont se retrouver dans toute la chaîne. Et le projet doit finir en 2025. Oui. L'objectif que j'ai, c'est d'avoir des champions parents qui vont continuer la prise en charge de leurs enfants. Parce qu'après 2025, je ne sais plus payer les Minerval des enfants. Je ne saurais plus venir faire quoi que ce soit. C'est chaque parent qui sera capable de payer son...
J'annonce
que son Excellence Madame la Ministre des Affaires Sociales, son Excellence Nathalie Aziz Amounana se prépare à aller ramener les enfants en classe en septembre ici et réceptionner les ouvrages, là, les CPJAB, et programmer l'inauguration que d'ailleurs tous les habitants ont réclamé que le chef de l'État lui-même vienne inaugurer. Parce que c'est des grands ouvrages. Hein. C'est un honneur qu'il a fait pour ces populations.
Voilà,
il vient lui-même inaugurer. Nous espérons que ça va se passer incessamment.
C'est très bien que ce projet se passe bien. Le projet à Pabia Cobalt, Madame Alice Mirim, on revient à vous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine d'échange citoyen. Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de ce projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et des jeunes impliqués dans la chaîne d'appui. Provisionnement du cobalt, Pabia Cobalt, qui est une initiative présidentielle pour l'éradication du travail des enfants dans les sites miniers artisanaux du cobalt et l'instauration d'une chaîne d'approvisionnement responsable du minerai cobalt en RDC. Si vous voulez intervenir, je rappelle le numéro d'appel, c'est 09 706 80 79. Merci également de nous suivre en direct sur nos plateformes digitales, à savoir à YouTube, Facebook et X.
Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables dans ces pays n'existent pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Nous avons déjà des auditeurs en ligne. Jérémy Mamba qui nous appelle depuis le Lubumbashi, Peter Maboudi qui est ici à Kinshasa également, Docteur Mbole Ekanga, Christian qui est en ligne. On y va avec Jérémy Mamba depuis le Lubumbashi. Bonjour Jérémy Mamba.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour également à Madame l'invitée. Je pense que nous saluons d'une part la présidence de la République, n'est-ce pas, à côté de laquelle nous voyons ici les gouvernements pour les initiatives de grande envergure visant d'abord à l'éradication, n'est-ce pas, de la présence des enfants dans les sites miniers artisanaux du cobalt, en guise bien évidemment d'arracher auprès d'eux d'abord la réinsertion scolaire et aussi également la reconversion en agro-business. Alors d'autre part également le PBA pour le pilotage et surtout la BAD qui est totalement détentrice, n'est-ce pas, du pouvoir de financement. Alors ici, nous voulons maintenant poser la question, est-ce que c'est suffisant au regard, n'est-ce pas, de la dimension de notre pays et surtout de la démographie. Et maintenant, l'autre question, c'est de savoir, mais pourquoi se focaliser uniquement sur un seul registre dans ce qui concerne l'extraction de, n'est-ce pas, du cobalt. Parce que quand nous regardons le pays, il est vaste, et quand vous regardez, il y a la même similitude qui se passe peut-être quand nous regardons dans les grands Kivu, quand vous allez même dans la province du chef de l'État, les Kassai, par exemple, vous allez trouver les jeunes gens là-bas en train de faire l'exploitation, n'est-ce pas, du diamant et du côté, n'est-ce pas, du Pumba, non loin du polygone Miwa. Et quand vous allez aussi à Tikapa, par exemple, vous allez trouver qu'il y a de jeunes gens qui sont en train d'exploiter le diamant de manière artisanale. Et il y en a même qui traversent vers l'Angola avec les risques que certains rentrent amputés de bras, qui de jambes, etc. Tout ça, donc, c'est-à-dire en matière de bonne gouvernance, là nous voulons dire, il faut peut-être avoir ce qu'on appelle l'égalité dans la gestion des choses. Ça veut dire quoi? La banque, c'est elle qui donne. Et elle donne pour le pays. Et quand elle donne pour le pays, c'est que il faut que maintenant, au niveau du gouvernement, lui qui définit la politique générale du pays, puisse connaître quelles sont les cibles. Vous savez, notre pays, il faut s'attaquer d'abord aux causes. C'est ce que je voudrais d'abord demander au gouvernement. Quelle est la cause qui amène à ce que les enfants vont là dans des mines? Et quel est l'état, n'est-ce pas, de leurs parents? Quand vous regardez aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a la cause principale, nous avons les causes. Parmi les causes, nous avons la pauvreté, le seuil de la pauvreté qui a atteint vraiment un niveau vraiment trop inquiétant. Il y a aussi également le problème des chômages criants. Et aussi, quand vous regardez aujourd'hui, les hommes ne travaillent pas. Ce sont les femmes qui nourrissent les familles au jour d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous trouvez que les femmes se retrouvent dans des mines. Moi, j'ai vécu, je suis natif du Kolwezi et de Kolwezi. Et je demande à madame, les enfants continuent encore à s'y rendre là-bas. Quand vous quittez, vous êtes au niveau du Kolwezi en ville là-bas. Si vous prenez 17 kilomètres, vous allez dans la cité de Kapata. Il y en a des enfants qui exploitent les malakites là-bas à la carrière du Kolwe. Il y en a qui continuent encore. Alors moi, je voudrais demander ceci au gouvernement. Lorsqu'il y a une situation qui se présente, vous voyez, le pays est très vaste. Il faut pouvoir, dans la matière de gouvernance, il faut peut-être et répartir les ressources de manière équitable. Comment on peut faire? Commencer par créer des écoles. Lorsqu'on crée des écoles, on va amplifier la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est un. De deux, on doit en même temps créer des centres de formation pour permettre à tout enfant de pouvoir... Et quand je parle de la création des écoles, ce sont des écoles techniques, s'il vous plaît. Pas nous emmerder avec trop de sections littéraires, et tout ça, les enfants, ça ne profite pas aux enfants au jour d'aujourd'hui. On amène les enfants dans les écoles techniques. Mais aujourd'hui, l'État n'a pas d'école. C'est ça le problème.
Il faut Jérémy, vous avez certainement suivi madame. C'est, en tout cas, à mon humble avis, ça paraît comme un projet pilote. On a commencé avec des enfants qui travaillent dans le site minier artisanaux du Cobalt. Certainement, ça va se poursuivre également avec trois d'autres sites. Et vous avez également remarqué, madame l'a dit, on est parti chercher la cause qui a fait que ces enfants sont là, c'était la pauvreté. Et voilà, pour résoudre cette situation de pauvreté, on a pensé tourner ces familles vers l'agro-business en créant des centres de formation d'entrepreneuriat. Donc c'est un projet qui pourrait être dupliqué, comme en tout cas assez que je sache dans les autres provinces, parce que jusque-là, le projet marche très très bien, assez qu'il me semble. Merci Jérémy Mwamba d'avoir appelé depuis Lubumbashi. On revient à Kinshasa pour accorder la parole à Peter Maboudi. Bonjour Peter Maboudi.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité et à tous les sœurs de Radio Capi.
Vous avez la parole, on vous écoute.
Oui, merci Monsieur Marcel. Je salue le pertinent analyse de madame, l'invité. Il y a lieu de rappeler que Monsieur Marcel, la conception d'un projet dépend de l'initiateur de ce dernier, et en se référant bien sûr aux objectifs globaux et spécifiques préalablement fixés. Et ce genre de projet nécessairement nécessite d'abord au préalable également une enquête qui doit être menée sur terrain pour identifier les bénéficiaires, les causes de ce genre de projet. Je viens d'entendre l'invité et également le premier intervenant. Il y a lieu de se poser plusieurs questions, Monsieur Marcel. Et moi, personnellement, en suivant madame, par rapport aux sites qui ont bénéficié des actes de concession ou les sites déjà concédés à certaines entreprises qui exploitent, est-ce que les actes qui ont été octroyés à ces entreprises ont-ils vraiment respecté la procédure à la matière, notamment le code minier qui régit l'exploitation minière dans notre pays? Et si et seulement si, Monsieur Marcel, le projet qui visait à avoir zéro enfant dans les sites miniers de cobalt et que ce projet-là est atteint. J'entends madame dire encore la construction des écoles, alors que le projet visait seulement de carter tous les enfants dans les sites miniers dont les causes ont été évoquées, notamment la pauvreté de leurs parents, que nous saluons nécessairement avec les appuis que le projet a octroyé aux parents, justement pour que les enfants puissent bénéficier d'une bonne éducation. Mais est-ce que nécessairement, n'est-ce pas là déjà un problème de gouvernance parallèle? Parce que quand nous analysons également le projet des 145 territoires dans son volet construction des infrastructures, on parle toujours de construction des écoles et consoles. Et le même projet encore de PABA, Cobalt, parle encore de construction des écoles. Et également, si nous entrons dans la source même de financement, plusieurs projets qui sont initiés par le gouvernement, par nos autorités, ne sont que vraiment financés que par les partenaires, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et également l'Union européenne. Mais nous nous posons la question sur l'utilité des impôts et taxes que nous payons, nous, en tant que contribuables congolais, qui doivent nécessairement répondre à ce genre de questions, justement pour couvrir les charges publiques. Quand on parle des charges publiques, il y a lieu de parler des écoles, de construction des routes, de construction des hôpitaux et consorts. Mais si les projets sont financés que par le partenaire, il y a déjà encore un problème. Et le projet prendra fin 2025, comme madame l'a dit. Et nous espérons que ces enfants qui ont déjà commencé avec les cours ne pourront pas s'arrêter en cours des années.
Voilà, c'est des
frais scolaires.
Ah, Peter Mabout, voilà pourquoi la sonnette d'alarme est tirée, hein, parce que lorsque le projet sera à terme en 2025, il va s'agir maintenant au gouvernement congolais de voir comment prendre la relève. C'est à ce moment-là, peut-être par rapport à votre préoccupation au gouvernement, de prendre de dispositions afin que ces enfants continuent à bénéficier d'une formation scolaire. Merci Peter Mabout de Kinshasa. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Ismaël.
Bonjour Marcel Mbala, bonjour à Madame Alice Kabedi.
Alice Mirimo, on vous écoute. Kabedi, on vous écoute, allez-y.
Alice Mirimo Kabedi, oui.
Kabedi, bon, de toute façon, allez-y.
Je pense Achilouba.
Achilouba, ok. Allez-y Ismaël, allez-y.
Ok, comme nous vivons dans un milieu concerné,
oui,
j'avais voulu un peu rappeler à madame que juste quand elle a dit que ce qui pousse les enfants pour être dans des sites, c'est la pauvreté, je me fictise en faux. Ce n'est pas la réalité. Je vous donne une réalité sur ce sujet. Vous voyez des villages qui sont proches de l'exploitation de minerais. Je ne pense pas que même si le parent interdisait leurs enfants, ça peut donner une solution. C'est compliqué, c'est difficile. Vous êtes sur Tank Fungurume. Disons Tank. Là, c'est proche du village ou de la cité. Ces gens-là, moi-même, je me demande si ces enfants-là ont eu même une notion d'éducation. Tout dépend d'abord de l'éducation familiale de chaque parent pour ses enfants. Vu aussi que ces enfants-là se font savoir d'argent, parce que quand il ramasse une petite quantité, il a quelques sommes d'argent, vous allez voir que ces enfants-là se donnent à manger, à boire, à payer même quelque chose là. Ils sont stimulés par la somme d'argent là, l'achat de certaines choses là. Vous allez voir même les commerçants, tout tourne autour de ces enfants-là pour leur vendre. Là, je parle de l'éducation plutôt que de la pauvreté de ses parents. Parce que vous trouverez même les parents qui ont les moyens. Mais c'est
donc Ismaël, vous estimez, Ismaël, vous estimez, selon vous, c'est pas seulement la pauvreté qui est à la base de cette situation de la présence des enfants dans les sites artisanaux. Vous pensez que même si les parents ont des moyens, et on peut voir également ces enfants aller sur ces sites, ça vraiment, c'est d'après votre façon de voir les choses. Merci Ismaël d'avoir appelé depuis Lubumbashi. Clément Daï, vous êtes à Kananga. Bonjour Clément Daï.
Merci à l'invité de la radio Kakou.
Vous avez la parole, on vous écoute. Bien,
en tout cas, merci beaucoup pour la parole. De telles initiatives sont beaucoup appréciées pour un gouvernement très responsable qui s'occupe du bien-être de son peuple. Mais malheureusement, moi-même ainsi que tant d'autres personnes, nous avons remarqué encore que nous avons des mauvais souvenirs car des initiatives comme celle-ci aboutissent par une déception puisque ceux qui ont été identifiés ils risqueraient vraiment de se retrouver remplacés par d'autres qui n'ont jamais été identifiés et puis enregistrés. Ce sont de tels comportements que nous avons vécu ici à Kananga avec les victimes qui avaient perdu leur bien et même la perte de vies humaines. Ici à Kananga, les gens qui ont été identifiés et puis enregistrés n'ont pas bénéficié ce qu'ils pouvaient bénéficier, mais il y a eu d'autres personnes qui n'étaient pas identifiées et puis enregistrées même qui ont bénéficié de ces histoires-là. Même vous avez vu, même les gens de Kindu là-bas, les victimes-là, se plaignent à tout moment et puis réclament que ce qui a été destiné à eux ont été détournés. Ils n'ont pas bénéficié ça comme c'était prévu. Alors que la banque a eu la bonne volonté de s'occuper de ces enfants-là. Mais moi, je voudrais demander au gouvernement et puis aux autorités qui sont sur place dans des provinces ciblées de faire vraiment un suivi pour que ce qui est destiné et les personnes concernées puissent vraiment bénéficier et puis bien équiper afin que des pratiques pareilles ne puissent pas vraiment se reproduire. Car voilà. Nous ne voulons jamais que nous puissions être déçus à tout moment, mais nous voulons qu'il y ait vraiment un changement adéquat sur tout le plan. En tout cas, merci. Bonne journée chez vous.
Bonne journée à vous aussi, Clément Ndaye, et merci d'avoir appelé depuis Kananga. Maître Patrick Odia est en ligne. Maître Patrick Odia, on va vous accorder bientôt la parole. Il est temps pour nous de donner l'occasion à Madame Alice Mirimo de réagir par rapport à ses premières interventions. Madame, vous avez suivi. Il y a ceux qui estiment que vous avez dit, le projet va prendre fin en 2025. Est-ce qu'il y a des soucis par rapport à l'avenir de tous ces enfants? Et là, ceux qui cherchent également à savoir, est-ce que par rapport au financement, tout va bien se passer jusqu'en 2025? Et vous avez suivi les tout derniers, Clément Ndaye, qui lui aimerait qu'au niveau de votre unité de projet Pabia Kobalt, plutôt d'être vraiment, vraiment prudent pour que ce projet puisse toujours continuer à bénéficier à ceux qui le méritent.
Oui, merci beaucoup. Je remercie d'abord les auditeurs de toute l'attention qu'ils ont avec leurs interventions très enrichissantes. Et aussi, ils reconnaissent les efforts du gouvernement. Tout commence par quelque part. Hein. Le mal est tellement profond que nous devons avoir aussi de la patience pour le voir se terminer. Et moi, j'apprécie déjà l'élan du gouvernement, sous d'ailleurs le leadership de son Excellence Madame Judith Suminwa, la Première Ministre, parce qu'elle a mis tout le monde au travail, au fait, avec des délais précis pour de mettre des résultats. Alors, sous donc l'impulsion du chef de l'État, nous sommes tous en train de courir comme si nous courions derrière quelque chose. Et ça nous met, nous, dans l'élan de résultats. Voilà pourquoi il y a une autre innovation qui a été faite avec le Pabia Kobalt. C'est que ce projet est logé au sein d'un établissement public dénommé Fonds National de Promotion et de Service Social. Pour ceux qui connaissent cet établissement public, c'est le plus ancien fonds de la République. Il a existé depuis 1947 et il n'a fait que donner à ce pays les sociales que nous avons. Les gens, quand ils passent devant les hôpitaux des références, je donne l'exemple de Sana de Selembao, ils ne peuvent pas se poser la question qui avait fait ces grands chefs d'œuvre. C'est le fonds. C'était en 1956, si j'ai bonne mémoire. Et en 2019, nous avons amené un équipement là-bas, médical. Et donc,
mais qui pendant longtemps, madame, il faut le dire aussi, que ce fonds n'a pas vraiment eu à bénéficier du soutien, de l'appui de l'État congolais pendant beaucoup d'années.
Oui, c'est vrai, c'est pendant beaucoup d'années. Et c'est comme ça que le chef de l'État, aujourd'hui, est en train de le redynamiser. Il a commencé en 2019 en logeant ses grands projets pour que ce fonds serve d'instrument pour la pérennisation de ça. Ce n'est pas une activité, c'est désormais l'une des missions même du FNPCS. Parce que nous travaillons pour que la population accède aux services sociaux de base, jouisse des services sociaux de base et puisse finalement être relevée et sortir de la vulnérabilité. Ça ne peut pas se passer juste avec des discours, ça se passe avec des ouvrages, avec des œuvres. Voilà pourquoi je rassure monsieur Peter Massoudi qui disait pourquoi il n'y a que les bailleurs qui viennent. C'est vrai, les bailleurs viennent en appui aux initiatives du gouvernement. Ceci, c'est un projet du gouvernement initié par le chef de l'État. Mais quand c'est logé au FNPSS, ça signifie que l'État a le souci, même si les bailleurs sont argent fini, l'État continue. Et je suis en train de vous informer que nous sommes en train d'aller dans la deuxième phase du PABEA. Le PABEA, c'est le projet pour le bien-être alternatif des enfants et des jeunes. Bon, évidemment, dans les jeunes, il y a les parents. Mais dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, c'était effectivement le pilote, le lancement, le modèle. Mais ça va s'élargir. Maintenant, on aura des PABA or, PABA coltan, pourquoi pas PABA malachite, PABA bauxite, PABA
résine. Ça, c'est par rapport à la préoccupation.
Et c'est
de,
ce qui va
Jérémy
se passer
Mambari.
Dans les 14 provinces.
On va dupliquer.
On va dupliquer. Oui. Tous les gouverneurs concernés sont déjà informés à travers nos chefs d'agence. Qui sont là, parce que le fonds est maintenant dans toute la République. Évidemment, on était toujours dans toute la République, mais quand le pays a été découpé, on a dû encore créer des bureaux dans d'autres provinces. Alors, maintenant, le FNPCS a un chapitre budgétaire dans le budget de l'État. Et si aujourd'hui nous avons aligné les 18 CPJAP et des centres de formation professionnelle, c'est parce que l'année passée, le gouvernement a mis au chapitre budgétaire du FNPCS assez de moyens que la Direction générale des passations de marché public a vu et nous a donné l'avis de non-objection pour que nous puissions lancer ces marchés. Ça, c'est l'argent de l'État congolais qui vient des contribuables congolais. Et c'est pourquoi j'encourage nos entrepreneurs congolais de postuler, parce que c'est ça la redistribution du revenu. La redistribution, on ne va pas appeler quelqu'un à son nom, lui donner 1000 francs, non. La redistribution, c'est quand vous postulez, vous gagnez un marché, on vous paye, vous avez eu votre part de cette richesse du pays. Donc moi, j'encourage nos compatriotes à postuler. Et nous sommes en train de travailler ce jour-ci avec le ministère du Budget et le ministère des Finances pour que ce PABA 2, que ce soit l'État qui commence et que les bailleurs le suivent. Notre objectif, c'est qu'autour du FNPCS, qui est un consortium de partenaires, en commençant par l'État, et l'État va commencer avec ses 18 CPJAB, et ces 8 centres de formation professionnelle dans ces 14 provinces. Et nous venons de défendre encore nos prévisions budgétaires pour 2025 devant les panels du ministère du Budget. Ça va arriver au gouvernement, ça ira jusqu'au Parlement. Nous avons encore insisté que ces crédits restent, parce que non seulement ça crédibilise l'État, mais aussi ça rassure la population. C'est ce qu'on peut dire le véritable contrat social où chacun se retrouve. Vous savez, je veux vous dire, le CPJAP que nous venons de construire dans le Mutumpeke et à Kamoa, chaque CPJAP va nous créer 3000 emplois directs. Parce que là, j'ai mis des tracteurs, j'ai mis des semoirs, j'ai mis tout là-bas. Tout ce qu'on vous connaissez comme unité de mécanisation se trouve là-bas. Et des usines. Mais ça va fonctionner comment? Ça va tourner grâce aux mains de Congolais. Donc, il faut vous préparer déjà. Préparez vos CV, préparez vos dossiers. Tous ceux qui connaissent l'agriculture, les environnementalistes, moi, j'ai besoin de toutes les disciplines qui existent dans ce pays. Les informaticiens, préparez-vous. Parce que d'ici là, moi, je lance des appels d'offres et soyez en position de concurrence pour que vous puissiez avoir ces emplois-là. Alors, imaginez maintenant, nous aurons d'autres 18 CPJAB. Et si chaque CPJAB me donne 3000 emplois? Nous ne sommes pas en train déjà de donner le premier engagement du chef de l'État, vous vous rappelez, non? Création d'emplois, ça n'allait pas se passer comme ça, c'est par rapport au projet, par rapport à tous ces ouvrages. Les emplois vont commencer depuis que le chantier est lancé, parce que là, il y a des maçons, des aides-maçons, il y a des chefs de chantier et tout ça, et la vie même du CPJAP. Et je vous informe que pour le CPJAP, pour une bonne expérimentation, je veux commencer avec un contrat d'un développeur. Si c'est le minimum du temps, c'est au moins 20 ans. C'est des projets agricoles. Ce ne sont pas des projets d'un jour.
Oui, c'est à long terme. Hein, c'est
et
à
voilà.
Long terme. Mais madame...
Quand nous parlons de deuxième phase du PABA, nous irons même aux 10 phases. Hein, parce qu'à chaque étape, on doit évaluer, améliorer et aller de l'avant. Et donc, pour nous, nous estimons que le FNPCS, c'est vraiment... Et même quand vous voyez notre logo, nous mettons les mains en bas de la RDC. C'est pour nous, notre ambition, c'est cette entreprise qui va réellement booster la vie du Congolais. Et nous ne le faisons pas dans la bouche, mais avec des œuvres sur terre.
Mais justement, comme je disais, madame, c'est un projet qui marche bien sur le terrain. C'est vrai, vous avez salué l'implication des gouverneurs des deux provinces concernées, le Haut-Katanga et le Lualaba, mais aussi la population elle-même. Il ne faut pas également oublier, madame, on ne se jette pas toujours des fleurs, mais il faut aussi reconnaître votre implication personnelle par rapport à ces projets. Parce que bien souvent, c'est ce qu'on déplore au niveau de la gestion des projets dans ce pays. Les projets commencent, mais bien souvent, ça ne marche pas. Alors, quand il y a déjà un projet qui marche bien, moi je pense qu'il faut également encourager ces gens de gestionnaires. Ça, il faut vraiment le dire.
Bon, peut-être je n'aime pas trop parler de moi-même, mais j'ai la joie d'informer la population que c'est le Premier ministre qui m'avait remis mon certificat de mérite.
Ah, voilà.
Donc, c'était devant plusieurs membres du gouvernement avec d'autres collègues coordonnateurs de projets. C'était à travers le ministère des Finances. Et donc, pour moi aussi, ça me donne beaucoup de joie et ça m'encourage à me donner à fond pour que le compatriote sente que en fait, les autorités sont là, c'est d'abord pour l'amélioration de leurs conditions.
Tout à fait. Il est grand temps dans ces pays de commencer à encourager également les bons gestionnaires, parce que c'est quand tout le temps on décrit ce qui est mal, on reproche aux gestionnaires de pas bien faire le travail, mais quand il y a ceux qui pensent bien faire le travail, c'est pas toujours mal aussi de leur jeter de fleurs. Voilà. Merci on revient au standard avec Maître Patrick Odia qui nous appelle depuis le Lubumbashi. Bonjour Maître Patrick Odia.
Bonjour Marcel, bonjour à Madame l'invité et à tous les auditeurs de la Radio Kabi qui ont pris parole déjà.
On vous écoute.
Ça faisait longtemps qu'on a pu débattre également de cette question avec Madame. Rappelez-vous, la fois passée, elle nous avait promis de faire un état des lieux, si je ne me trompe pas, l'installation de certaines antennes également dans des provinces. Mais en prenant parole, j'ai senti qu'elle a balayé cette question directement, qu'il y a déjà des bureaux dans des provinces également. Chose à féliciter, vous l'avez dit. Autrefois, nous l'avons même recommandé pour qu'elle soit nommée à des postes de responsabilité, notamment ministre, pourquoi pas la présidence et tout ça, mais hélas, je pense que ça viendra, parce que les lignes de pliement qui essaient de travailler dans l'honnêteté et qui se donnent à corps et au fond pour que ce projet puisse également réussir. Nous sentons, nous qui sommes dans les Haut-Katanga, qu'il y a des avancées significatives, hein, il faut les reconnaître également, notamment de la part du gouvernement au travers cette brave femme qui est dans les studios, et certains projets visibles également. Nous qui visitons les milieux miniers, nous pouvons voir qu'il y a quand même certaines améliorations dans ce sens. Cependant, nous estimons que les efforts ne sont pas suffisants, d'autant plus que nous continuons de voir également le même jeune qui continue d'être toujours sur le même site. Nous nous posons la question, est-ce que ces jeunes ont-ils déjà réussi, sont-ils bénéficiaires du projet déjà financier, financé directement, et qu'ils sont rentrés par c'est pas moi, ou bien ont-ils été oubliés? Ce sont des questions que nous ne sommes pas en mesure de répondre. Peut-être que la dame, lorsqu'elle prendra parole, elle pourra nous éclairer. Lorsque nous voyons certains jeunes toujours dans les milliers, est-ce que ces gens ont-ils déjà réussi des financements? Où sont-ils tout simplement oubliés? Ont-ils été oubliés? Ce sont des questions que nous nous posons, par exemple. Mais moi, je propose que pour éviter la présence encore visible, hein, on peut le dire, des jeunes encore dans les milieux miniers, il faudrait passer par des mécanismes d'identification. Parce que lorsqu'on ne sait pas identifier les nombres exacts, et même si on va financer autant, on ne saura pas faire un bilan en termes de chiffres également. Si madame peut être dans leur programme également, elle peut essayer d'initier un projet d'identification, hein, dans les milliers dont on a cité, les Haut-Katanga également, et les lois là-bas et tout ça. Je pense que ça pourrait également aider. Deuxième des choses également, je sens que la BAD, la Banque Africaine de Développement, essaie de fournir un peu les efforts en finançant ces projets. Mais est-ce que madame peut-elle nous dire les taux en termes de chiffres, hein, des pourcentages également, que le gouvernement congolais aille à mettre en place l'affectation financière également dans ses projets? Parce que lorsque nous parlons de social, lorsque nous parlons de FNPES, c'est vraiment des questions sociales dont un gouvernement responsable devait se statuer, devait se saisir pour contribuer également et répondre à des questions également. Je pense que lorsqu'elle prendra parole, elle pourrait également nous préciser, si cela ne briserait pas ses secrets professionnels, de nous dire également en termes de combien de pourcentages le gouvernement congolais a-t-il contribué. Mais est-ce qu'également au niveau des provinces, elle est au courant ou elle est en collaboration avec les deux provinces pour une commission, par exemple, dans ces systèmes également? Parce que si on essaie de mutualiser les efforts entre les deux provinces avec la structure FNPES, avec le gouvernement congolais national également, je pense que nous pouvons avancer à éradiquer également. Je voudrais citer en disant toujours ce que j'ai dit autrefois dans l'émission lorsqu'elle était invitée également, en lui demandant également, il ne s'agit pas seulement de faire un PABEA cobalt, mais il faut également penser à faire un PABEA diamant. Au Kasaï, il y a des gens, et je pense que Jérémy l'a dit, il y a des gens qui souffrent, des jeunes qui sont dans les milliers et milliers, diamant, Tikapa, tout pour de l'Angola et tout ça. Je pense qu'autrefois, elle nous avait également promis qu'elle devait voir dans quelle mesure on pouvait également avoir un autre projet dans ces milliers, notamment les grands Kasaï, à côté de la Miba, Tikapa, tout proche de l'Angola également. Où en sommes-nous à ces stades avec ces genres de projets également, non seulement cobalt, mais aussi les diamants et ceux. Je voudrais pas m'empêcher de lui dire merci, qu'elle sert sincèrement et le peuple est content de ce qu'elle fait. Nous pensons que le Seigneur pourra la bénir seulement pour des efforts qu'elle est en train de fournir et surtout sa perspicacité, sa délicatesse dans la gestion de ses projets également, avec beaucoup de maîtrise et beaucoup de rigueur également. Je pense que lorsqu'il y a des choses à féliciter, nous encourageons, et ici il est question d'encourager et de féliciter une compatriote qui se distingue parmi tant d'autres également, mais peut-être dont le gouvernement essaye d'oublier. Elle a parlé du certificat, mais il faut aller au-delà du certificat. Il faut reconnaître qu'il faut promouvoir quelqu'un et lui accorder les moyens nécessaires de sa politique.
Voilà, merci beaucoup Maître Patrick Odia. Sincèrement, je suis touché de voir que vous suivez de près tout ce qui s'est pas sur l'antenne. Ça, lorsqu'on vient comme invité dans cette émission, faut pas dire des choses en l'air. Il y a des auditeurs qui prennent note. Vous avez repris vraiment comme une leçon apprise, hein, ce que madame avait dit. Et sincèrement, je me rappelle également de tout ça. Sincèrement, merci à vous, Maître Patrick Odia. Continuez à rester fidèle auditeur de Radio Capi et surtout de parler aux auditeurs. Bonne journée à vous. Allons-y, Tepianzi, vous êtes à Bounia. Bonjour, allons-y.
Bonjour messieurs les journalistes, et bonjour à l'invité, et bonjour aux fidèles auditeurs de la radio Kaki.
On vous écoute.
Merci de m'avoir associé à cet échange citoyen après plusieurs moments d'absence. Premièrement, je tiens à féliciter d'abord l'engagement de la patriote présente dans les studios. Les AFA étant l'avenir de demain, sont censés être protégés par tous les mécanismes possibles. À mon avis, les projets d'appui au bien-être alternatif des AFA vise à éradiquer le travail des affaires dans les mines en RDC. Avec plus de 13 000 affaires insérées dans le système éducatif, ce projet a réalisé des avancées significatives. Par contre...
Et aujourd'hui, on a parlé de 16 000, hein, vous avez suivi, on a parlé de 16 000. Hein.
Oui, mais 13 000 maintenant. Toutes mes excuses pour cette décision. Par contre, pour garantir la durabilité de ces résultats, il est important d'évaluer l'impact éducatif à long terme, d'assurer la viabilité économique et alternative proposée et de promouvoir un changement culturel au sein de la communauté. Afin, une collaboration étroite avec des acteurs locaux et un système de suivi rigoureux sont essentiels pour maximiser l'efficacité du projet.
Voilà, merci Alondi Tepandi depuis Bounia. Et on va prendre le tout dernier, c'est Jonathan Tagamilé. Jonathan, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, cher Master, et bonjour à tous les auditeurs aussi qui ont invité.
Vous avez la parole.
Ah oui, merci de m'avoir associé également. Cher Master, vous allez comprendre que cette problématique qui touche un peu l'ensemble de la République. Au-delà de l'aspect cobalt, au-delà de cette minerai cobalt, il y en a aussi d'autres dans lesquels les affaires et jeunes sont impliqués. Entre autres, les secteurs orpaillés et les diamants, et comme mon prédécesseur l'a soulevé. Donc, c'est un peu large, ce champ d'action. À ce niveau, on aimerait savoir si est-ce que pourquoi on a limité seulement cet accompagnement, cet appui au niveau des cobalt seulement, que d'élargir à tous les autres niveaux, à tous les autres secteurs miniers. Parce que même ici à Ituri, si vous faites une curiosité, vous allez un peu dans les milieux, un peu dans l'Ituri profond, vous allez comprendre qu'il y a vraiment des affaires, des très jeunes affaires vraiment qui se livrent et qui sont enrôlés dans ces activités. Alors que si nous nous appelons, si nous faisons un peu une marche en arrière vers dans cet instrument juridique de la déclaration, cet instrument réprimande vraiment l'emploi des jeunes et des enfants dans des travaux de ce genre. Alors, j'aimerais demander à l'invité... Ok, pourquoi si est-ce qu'on n'a pas vraiment étatifié, on n'a pas élargi cette action à là dans les autres secteurs également?
Voilà, je pense qu'on va s'arrêter par là. Voyez-vous, Jonathan Tagamilé, c'est une préoccupation qui a été également soulevée par ceux qui vous ont précédé. Madame va certainement réagir par rapport à ça. Merci, Jonathan Tagamilé. Madame, vous avez suivi. On a parlé de l'identification. S'il faut continuer à identifier ces enfants, parce que d'après Maître Patrick Odia, on s'y voit encore des enfants au niveau de ces sites miniers. Il y a ceux qui également parlé de comment continuer, comment étendre ce projet pour d'autres sites qui ne concernent pas le cobalt. Et puis on a également cherché à savoir le financement du gouvernement congolais par rapport à ce projet. Est-ce que c'est seulement la BAD ou bien les gouvernements congolais également financer les Pabia Cobalt?
Merci beaucoup. En fait, je vais juste répéter ce que j'ai dit parce que j'en ai parlé. Oui. Mais avant de le dire, j'aimerais revenir sur ce que Clément Ndaye a dit, parce qu'il a donné le risque soit de ne pas prendre les vrais bénéficiaires et tout. J'aimerais rassurer l'opinion que le système, les dispositifs qui a été utilisé pour l'identification des bénéficiaires, c'est un système, un dispositif numérisé avec beaucoup d'aspects de sécurité et particulièrement la reconnaissance faciale. Donc c'était difficile d'avoir deux enfants ou un doublon. Et après cela, il y a eu le contrôle physique. Le groupement dont j'ai parlé, COPI BDC, ce sont des acteurs très, très sérieux dans ce qu'ils font. Quand j'ai mis à leur disposition cette base de données, ils sont allés sur le terrain par rapport à ce que chaque enfant et chaque parent déclarait, et ils ont vu ces enfants. Et chaque enfant a sa carte d'identification. Je dis, pendant que je parlais, que l'Observatoire de la vulnérabilité sociale qui est au sein du fonds, c'est un observatoire de l'État qui est au sein du fonds, nous allons y mettre un dispositif permanent d'alerte et de surveillance. La finalité, c'est la continuité de l'identification. Parce que quand on surveille et qu'on voit l'enfant, on alerte, après l'alerte, c'est l'identification. Cet enfant doit sortir et commencer son cycle de réinsertion. Et directement, son parent commence son cycle de reconversion pour l'agro-business. Et je vais aussi revenir sur l'aspect financement. J'ai parlé de 14 provinces. Je crois que je dois les citer carrément pour que
allez,
ça reste.
Allez, voilà. Allez, allez, rapidement. Oui, oui.
Donc, il y a le Nord Kivu, le Haut-Katanga, on continue parce qu'il y a le cuivre et les autres. Il y a le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Maniema, les Kasaï, les Sankuru, les Ituri. D'ailleurs, nous sommes très avancés avec le gouvernement militaire. Nous devons aller déjà lancer là-bas avec le plan social qu'il attend. Le Sud Kivu, le Lomami, Sankuru, Kwango, Maindombe, Bawele, Tanganyika et Kasaï. Et chaque province a été prise par rapport aux minerais qui prédominent là-bas. Je vous ai dit que c'est d'abord l'assainissement pour des chaînes d'approvisionnement responsables des minerais. Donc il y a l'or, le diamant, donc on n'aura pas bien or, pas bien diamant, bauxite, malachite et autres. Et il y a aussi les questions de réinsertion des enfants et de protection des enfants. En ce qui concerne donc le financement, quand je vous dis que les 14 provinces auront au moins 18 CPJAP et plus de 5 centres de formation professionnelle, parce qu'on doit aussi former en métier artisanaux miniers, en métier agricole, en coupe et couture et autres métiers. Nous n'avons pas assez d'ouvriers chez nous. Et nous, nous avons le centre et nous formons ceux qui vont aller dans le centre. Alors, cet argent a été inscrit sur les chapitres budgétaires du Fonds national de promotion des services sociaux. J'ai même dit que je viens de passer à la conférence budgétaire pour reconduire ces montants. C'est plus de 50 millions de dollars. Je ne l'ai pas comme l'argent en main, mais il est sur notre chapitre. C'est pourquoi la Direction générale du marché public qui approuve, qui fait le contrôle a priori des marchés, a validé ce plan de passation de marché qui est en ligne. Vous pouvez donc le consulter sur le site de l'ARMP.
Madame, rapidement, parce
alors,
qu'on n'a plus assez
de... Ce que je peux dire à ce moment-là, c'est d'exhorter les collègues du ministère de Finances et du Budget, surtout le ministre de Finances, de décaisser alors. Parce que quand les gens auront des contrats, ils doivent avoir les moyens pour exécuter sur terrain. Et je vais donc terminer en vous disant que, avec la collaboration du Fonds social de la République, nous allons encore continuer d'autres mécanismes dans la transformation agricole parce que lui pilote aussi un grand projet du chef de l'État sur la transformation agricole.
Voilà, Madame Alice, Maître Alice Mirimo-Kabeti, je rappelle que vous êtes administrateur, directeur général du Fonds national de promotion des services sociaux FNPSS, en sigle des coordonnatrices du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du Cobalt Pabia Cobalt. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans ces studios. On espère vous retrouver prochainement.
Bien partagé.
Pour continuer à parler de ce projet Pabia Cobalt. Fin de ce numéro de Paroles d'auditeurs d'ici jour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Pierre Diassinois qui est à la mise, à nom de Jonathan Fouanani et à Nelson Nyombe qui était pour la diffusion dans nos plateformes digitales. Merci également à Julie Feza Bongonda qui était à la coordination et à la réalisation de ce magazine. Au micro, c'était Marcel Gomobala. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro du Paroles d'auditeurs d'ici là. Bon suivi de programme sur la fréquence de la pouvoir. À toutes et à tous.